vois une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet.
Bonjour les chères grandes oreilles, me revoilà avec notre brillantissime émission « Mormir et Plätzle, fais-moi une place ». Une émission que vous connaissez bien maintenant et qui a trouvé une belle place dans l'organigramme de Radio Judaïca. Nous sommes là le mercredi à 11h30 et encore le dimanche à 12h30. Ouvrez vos oreilles et fermez les paupières. Assis sur le rebord du monde, le rideau en velours soyeux rouge écarlate s'ouvre avec délicatesse sur le monde de la photographie. Nous allons ce matin décortiquer, mirer la pellicule 24-36 d'un grand photographe, Stéphane Spar, de la vallée Click-Clack-Kodak. Oh pardon, non, de la vallée de la Boruche, bien entendu. Bonjour Stéphane Spar, comment tu gazouilles dans ton monde de l'image?
Bonjour. Comment je gazouille? Je suis un peu enroué ce matin. Voilà, c'est de saison.
Je suis très heureux de t'accueillir là devant cette forêt, myriade de microphones, de micros dans le studio. Derrière notre vitre étanche, on découvre l'homme casqué, c'est notre ramasseur de bruit, Lucas. Tu gazouilles toi aussi ce matin, Lucas?
Tranquillement, ça gazouille.
Bon, la vie est belle. Stéphane Spar, tu es un photographe professionnel. C'est ton chemin de vie, regarder, observer, voir ce que les autres ne voient pas?
Alors oui, bon, ce que les autres ne voient pas, c'est un peu prétentieux, mais regarder, oui, observer surtout, ouais. Observer, s'émerveiller, c'est vraiment, c'est une grosse partie de ma vie, oui, bien sûr.
On voit quand même des choses que les autres ne perçoivent pas.
À force de se pencher, à force de regarder, et je pense aussi, il y a la notion d'enfance, hein, tout le monde a été sur une plage avec un jeune gamin, il revient avec les poches remplies de
sable, de cailloux, de coquillages.
De cailloux, de coquillages, d'étoiles de mer, enfin de bouts de bois flottés, et je me demande si je ne suis pas un peu resté quelque part un enfant.
Ben on est tous heureusement des grands enfants. Heureusement que notre enfance est importante dans notre vie. Je veux dire, elle nous chemine jusqu'au bout du bout, quoi. Ouais. Hein? Et même au-delà des étoiles, j'imagine, tu vois.
Ouais. C'est ambitieux, oui.
Peut-être. Ouais. Dis-moi, est-ce qu'on peut aussi mirer les étoiles à la Claquette? Je crois que c'est de là. Tu viens de la Claquette. C'est où en la Claquette? C'est en Alsace?
Alors, c'est encore en Alsace. On n'est pas très loin des Vosges, puisque c'est le col de Salles qui va séparer les choses, mais on est vraiment dans une vallée déjà, avec des cernées d'arbres.
On appelle ça la vallée de la Bruche.
C'est la vallée de la Bruche.
La vallée de la Bruche, tout au fond de notre territoire alsacien, je crois. Ouais. C'est même une enclave francophone. Mm-hmm. C'est là où tu as passé ton enfance.
Tout à fait. Jusqu'à l'âge de 17 ans, je suis parti à 17 ans faire un apprentissage de photographe à Strasbourg.
Avant de parler de la photographie, parle-moi un petit peu de la Claquette, de ton enfance. Comment c'est dans ce lieu, la Claquette, la forêt, les jardins, les herbes, les odeurs? Parle-moi un peu de tout ça, là.
Alors, moi, je pense que j'ai eu une enfance tout à fait heureuse. Hein,
paradisiaque
disons paradisiaque. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Et puis, à l'époque, c'est vrai que les choses étaient un peu plus faciles qu'aujourd'hui pour la jeunesse. Et pour les gens, d'ailleurs. Et après, j'étais un peu isolé dans un énorme jardin. C'était un ancien site industriel, donc il y avait un mur d'enceinte qui était très haut, je voyais pas de l'autre côté. Et puis
c'était pas une prison, excuse-moi.
Ah, c'était une prison dorée alors.
Une prison dorée, enrubanée comme ça, tu veux dire?
Tout à fait. Ouais. Et de l'autre côté, il y avait la rivière. Donc pour aller s'échapper dans le village, voir des copains, c'était un peu difficile. Alors j'avais très peu de copains et
tu étais solitaire à l'époque quand tu étais jeune?
Ouais, quelque part, oui.
Ouais. Ouais. Tu étais dans ton monde à toi.
Ouais, clairement, oui. Ouais.
Déjà le monde un peu de l'image, tu observais déjà?
Non, c'est trop tôt. Après, c'est peut-être pas ta question, mais je suis venu à la photographie en m'intéressant au matériel photo. Et
plus à l'objet.
Oui, l'objet photo de l'appareil, la mécanique, tout ça, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et à l'époque, je délirais complètement sur un appareil russe qui s'appelait le Zénith.
Ah ben j'avais le même.
Voilà.
J'avais le même Zénith.
On a tous démarré avec. Ouais, on a Zénith. Essayé de démarrer avec ouais. ça parce que ça coûtait très peu cher.
Il y avait pas de cellule, il y avait rien. Hein,
ouais, si, il y avait une cellule avec un petit cadrage
ouais,
devant.
Ouais, enfin, ouais, je me souviens bien de cet appareil. Voilà. Ouais.
Et puis, je sais que mon premier film, je suis retombé dessus. Il y a peu de temps.
L'argentique en 24-36.
Ouais, en argentique, bien sûr. Et finalement, je me suis rendu compte qu'on pouvait photographier énormément de choses. Voilà. Des gens, des morceaux de jardin, un chien, un bout de ciel. Et ça, je pense que ça m'a ouvert au monde à le regarder finalement.
À regarder le monde, bah oui, parce qu'on a, bon, on a un regard différent. Il y avait aussi un homme qui habitait dans la vallée de la Bruche, qui était un savant qui travaillait avec la lumière. C'était le pasteur Oberlin. Mm. Tu connaissais son musée, tout ça.
Ah,
tu...
j'y vais régulièrement et je collabore un peu avec eux. J'adore ce lieu. D'abord, c'est très très beau. L'endroit est très beau. Il y a une belle architecture, il y a une belle scénographie,
ouais, absolument.
Et puis le sens qui est donné dans ce musée à voir, c'est absolument
ouais,
génial.
C'est extraordinaire. Ouais. Et alors, il a aussi inventé quelque chose d'assez incroyable, avec une bougie dans le noir, comme ça. Mm. Il peignait un petit peu le contour des visages.
Le travail sur la silhouette, oui.
La
oui.
silhouette,
oui.
C'était déjà presque de la photo, ça. C'était déjà de l'image, quoi.
Oui, c'est une façon de projeter, et puis surtout d'être dans la réalité de la silhouette, quoi.
Écoute, on va écouter une première petite musiquette pour reposer nos oreilles. Allez. Lucas, mets-nous voir la petite musiquette 2, une musiquette un peu tristoune, mais combien belle.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortel, pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cacher sous les faces.
Waouh, il était lumineux, hein, cet homme. Hein. Bien triste, quand
ouais.
même.
Hein. C'est une plongée dans la mélancolie.
Dans la mélancolie, ouais. Tu es un photographe, travaille aussi avec la lumière et même la mélancolie, tu veux dire tu...
Ah bah, je me demande si la mélancolie n'est pas
une lumière.
Au fond de... Et vraiment la base de mon travail, oui. Que ça soit dans les paysages ou tout ce qui est image d'atelier, nature morte, vanité, oui.
C'est ce que tu veux montrer, c'est ce que tu veux montrer aux gens, un peu la tu parles de la mélancolie, c'est tu es mélancolique quand tu fais des photos?
Non, je pense que je suis
heureux.
Alors heureux, je prends vraiment un grand plaisir à travailler. J'adore ça. Hein, et je me rends compte à quel point j'ai de la chance de pouvoir exercer depuis assez longtemps ce métier.
On peut dire que ton métier est un métier de voyageur, de baroudeur ou de regardeur. C'est comme ça que tu qualifies un peu ton métier.
Alors je retiens juste le dernier mot, c'est regardeur. Baroudeur, non. Je suis quelqu'un qui ne voyage absolument pas. Et mes paysages, par exemple, pour information, je les fais dans
ton jardin.
Alors, dans mon jardin, des fois. Quel aventurier. Hein.
Mais alors, t'as un escabeau, comment tu fais les photos de haut, tout ça? Tu as une échelle?
Non, dans mon jardin, j'ai pas trop d'escabeau, mais souvent, quand je vais en forêt, et là, c'est dans des rayons de 20-30 kilomètres, je travaille peut-être des fois avec des escabeaux, ou je viens avec de l'éclairage. Donc, il y a vraiment une scénographie que je mets en place, une théâtralisation aussi du paysage.
Et si tu t'évades pas comme ça, c'est par timidité que tu t'en vas pas ailleurs ou tu as envie de rester, chez toi, dans ton antre, dans ton monde à toi et...
Non, je pense pas que ça soit de la timidité. J'ai eu l'occasion de voyager professionnellement parce que j'avais des commandes avec des clients un peu partout dans le monde. Mais je trouve que travailler sur la proximité, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et de toute façon, je pense que le paysage n'est pas quelque chose qui existe véritablement, que c'est vraiment des paysages qui sont peut-être de l'ordre de l'intérieur. Donc, à la limite, on peut les faire dans son jardin, quelque
près
part.
Près de chez soi. Ouais. Parce que tu photographies des brindilles, des l'herbe, des petites...
Je suis pas dans des grands panoramas. Ouais. C'est pas trop ce qui m'intéresse. C'est des plans assez serrés sur la forêt.
Téléobjectif, alors?
Non, pas du tout. Même pas. Une focale normale.
50?
Voilà, oui, grosso modo, 50, 35 mm en 24-36, même si je travaille pas dans ces formats.
Tu travailles toujours en argentique?
Non, depuis très longtemps, je ne travaille plus en argentique.
Tu es venu au numérique?
Ouais.
Et t'as pas de regrets? C'est pareil, c'est la même chose?
Alors, ce qui compte, c'est l'image. C'est l'image imprimée en numérique ou c'est l'image tirée au laboratoire en argentique. Ce qui compte, c'est ça. C'est ce qui est accroché au mur. Et est-ce qu'elle peut évoquer pour les gens? Moi, j'ai une grande liberté avec le numérique.
Parce
c'est
qu'on
très
peut,
important.
Parce qu'on peut multiplier les photos. 24-36, on était quand même limité par les 36 poses. Tandis que là, c'est l'infini.
Alors,
quoi.
Alors je suis un photographe qui a une formation d'argentique. Donc, même quand je travaille en numérique, je m'applique à ce que ma photo, il n'y ait pas de retouche. Photoshop, c'est pas quelque chose qui m'excite et qui m'intéresse
plus
que ça.
C'est pas très intéressant. Ouais.
Je sais l'utiliser, voilà. Mais et puis à l'époque, en argentique, quand on déclenchait, c'était des sous qui partaient aussi.
Oui, c'est ça.
Ça avait un coût.
Ouais.
Je suis né dans cette école et je continue à l'appliquer. Surtout le travail de lumière.
Ça c'est un. Tu parles de ton école. C'est, là, on apprend la technicité, mais pas les cadrages. Le cadrage, c'est toi, c'est ton esprit, tes yeux, ton feeling qui appuie sur le bouton à un moment et qui dit tiens, ça, c'est la photo, quoi.
Oui. Alors, pour moi, le cadrage, c'est un peu de l'ordre de la respiration. C'est une espèce d'équilibre qui se crée.
Ouais. Ouais. Hein,
entre les différentes masses et voilà.
Après, je sais aussi que tu étais un amoureux de ce musée zoologique à Strasbourg,
ah oui.
où tu as eu l'occasion de te glisser dans les décors et d'aller voir des choses interdites, ce que nous, on n'a jamais vu. Et tu as passé combien de temps, là, ce musée zoologique?
Je ne sais pas, j'ai dû travailler pendant 2 ans, j'ai dû y aller au moins une bonne quinzaine de fois.
Mais le jour comme la nuit?
Non, pas non. La nuit, non, j'y allais le jour.
T'avais pas peur?
Voilà. Non, c'est pas ça. En somme, ce qui m'intéressait, c'était de faire un état des lieux, parce que ce lieu est en train de disparaître de par la rénovation. Donc, tout ce côté ancien...
un peu poussiéreux, comme
voilà,
ça, avec
oui,
des choses intéressantes.
Qui était absolument fabuleux, avec cette patine, les décors un peu kitsch.
Ça date des années 1860-80, je crois, du temps du Kaiser-Wilhelm, je crois.
Voilà, je suis pas du tout un spécialiste, mais donc j'ai travaillé là-dessus, et puis à l'époque, la conservatrice et toute l'équipe m'ont fait confiance et m'ont donné les clés pour aller travailler dans les réserves. Et ça, pour moi, c'était par rapport à mes thématiques autour de la nature, du cabinet de curiosité, etc. Pour moi, c'était du pain béni.
Il y avait plein de choses dans le formol ou
Alors, il y avait du formol, il y avait des choses dans des congélateurs, il y avait des choses, des tiroirs entiers d'insectes. Enfin, chaque tiroir, chaque planche sortie, c'était un trésor, quoi.
Et là, donc,
c'est un trésor.
Tu as pris ton pied à photographier, si on peut dire ça comme ça.
Avec mon pied, j'ai bossé, oui, pendant quelques temps.
Parce que tu as un trépied pour faire les gros plans,
Oui, tout est fait sur pied. Il n'y a aucune image qui est faite à main levée. Avec de l'éclairage. Avec de l'éclairage aussi.
D'accord, donc tu as mis beaucoup donc tu avais des gros moyens quand même. Tu es venu avec.
Alors, gros moyens, non, j'aime plus ce terme parce que j'utilise peu de moyens en éclairage, justement, pour être assez.
Pour mettre la lumière naturelle, tu veux dire?
J'aime quand même que ça soit un peu marqué et théâtralisé aussi. Voilà. Hein, j'utilise beaucoup ce terme de théâtralisé, mais il est important. J'ai des choses sous cloche, sous verre.
Ouais, on va y venir un peu plus tout à l'heure, ce que tu enfermes sous cloche. Mais raconte-moi le musée zoologique. Qu'est-ce qui t'a impressionné? Ces grands ours, ces animaux grandioses? Ou alors une petite insecte, une petite fourmi?
Ça va de l'un à l'autre, juste de la petite fourmi jusqu'au squelette de baleine.
Waouh!
Qui est décortiqué dans le grenier en attente d'être répertorié, etc.
Et ça, c'était dans les réserves, ça.
C'était dans les réserves, dans les greniers. C'est un lieu qui est extraordinaire.
Ah ouais, j'imagine.
Voilà,
ouais.
Et puis on y croise des gens qui sont, qui sont extraordinaires aussi. Quoi.
Ouais, ouais. Revenons un petit peu à ta photo. Mmh. Comment tu as pu vivre de la photographie dans les années 80, de la publicité ou de la photo industrielle? Comment on pouvait vivre à l'époque de la photo?
Alors à l'époque, on en vivait plutôt pas trop mal, même si moi j'ai un peu galéré au début parce que j'étais assez marginal. Je me suis lancé dans la photographie industrielle.
Ça veut dire quoi, la photographie? Ça veut dire quoi?
C'est travailler avec des entreprises principalement, faire du reportage industriel.
Mais tu photographiais quoi alors?
Des fonderies, des industriels, des gens comme Messier Bugatti, des trains d'atterrissage. Moi, j'ai trouvé ça assez fabuleux de pouvoir rentrer dans un univers pendant une journée, deux jours, et de comprendre des process de fabrication, etc.
Tu parles de Molsheim, là,
Molsheim,
où il faisait des trains d'atterrissage pour les Mirages.
Oui, tout à fait. Oui.
Et là, c'est de la joaillerie, quoi.
C'est fabuleux, oui.
Ouais, ça doit être chouette.
Non, c'est...
Et donc, tu leur as fait des magazines, tu leur as fait quoi, des plaquettes?
Principalement des photos. Après, il y avait des équipes qui travaillaient sur de la mise en page, de l'édition, des choses comme ça.
D'accord. Après, tu dis que tu es allé à l'autre bout du monde. T'allais faire quoi? Ou ailleurs?
Alors après, j'ai eu des clients qui étaient plus dans le domaine du bâtiment, de la construction architecturale, et c'était des photos de référence. J'ai travaillé pour Klaus Hermann, donc qui était leader mondial dans tout ce qui est cloison et système acoustique d'ailleurs.
Dans le studio.
Voilà, on a travaillé au Japon, aux États-Unis, et puis dans toute l'Europe.
Ouais, t'as quand même bien voyagé là.
Oui, alors après, c'est la frustration du voyage professionnel, parce que tu arrives le matin et tu repars pratiquement le soir, donc c'est assez difficile d'avoir du temps pour soi. C'est toujours ça de prix.
Et c'est beau de découvrir l'autre bout du monde, le Japon, c'est quand même un pays extraordinaire.
Le Japon, c'est un pays extraordinaire.
J'ai été deux, trois fois pour faire des tournages.
C'est plein de contradictions.
C'est génial. Quand tu prends le Shinkansen et tu vois le Fujiyama, là, comment on a découvert. Ouais. C'est marrant parce que quand j'étais dans ce Shinkansen, j'avais rencontré un vieux sage qui était assis à côté de moi, il me disait « Vous voyez là, jeune homme, si vous voyez le Fujiyama sans brouillard, sans rien, vous aurez l'occasion de revenir. » Et en fait, j'ai eu l'occasion de revenir quelquefois. Donc voilà, c'est vrai que c'est beau de voyager un petit peu. Et alors, tu me parlais tout à l'heure de ton matériel, tu travaillais beaucoup avec le trépied. Pour quelle raison? Pour ne pas bouger avec ton appareil? Pour avoir un plan fixe?
Oui, alors par exemple, quand je fais un paysage, je suis extrêmement précis dans ce que je fais. Il m'arrive, là c'est un secret, il m'arrive même de rentrer dans le paysage avec un sécateur pour aller enlever
deux, trois trucs. C'est pas vrai? Ah oui, d'accord.
Parce qu'il faut que ça corresponde, finalement, comme un peintre qui va ne pas dessiner telle et telle branche parce qu'elle l'ennuie.
Mais justement, on y venir parce que... Tes images, je trouve, quand on regarde tes images, on a l'impression qu'il y a un peintre derrière, qui a fait de la peinture, parce qu'il y a des clairs obscurs, il y a des choses extraordinaires. Pour moi, c'est de la peinture, ce que tu fais. C'est de la photo, mais c'est une mise en scène extraordinaire, je trouve. Les décors sont somptueux, sont beaux. J'ai vu tes images de forêt, là, que tu fais. On va juste reposer un tout petit peu les oreilles et on va écouter la musique 3. Lucas, Nina Simone, tu m'as demandé d'écouter ça.
Allez.
Je crois que c'est une belle musique, ça. Allez, Lucas, mets-nous la sauce.
Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah.
Elle est belle cette musique, hein?
Elle est terrible.
Elle est terrible, ouais, c'est beau. Alors, dis-moi, est-ce que tes oreilles écoutent de la musique quand ils y regardent?
Non, parce que...
Tu t'inspires pas d'une musique?
Non. Non, en aucun cas. Je suis vraiment plongé dans mon truc et quand j'écoute de la musique, je suis plongé dans la musique.
Tu fais pas deux choses à la fois?
Non. Non, j'ai énormément de respect pour ce qu'on vient d'entendre.
Ouais, bien sûr.
Et voilà quoi.
Mais il y a des gens qui travaillent en musique, il y en a qui ont besoin de la musique, qui travaillent et tout, qui ont des idées, qui voient des images. Dès que tu vois la musique, t'entends la musique dans tes oreilles, c'est les yeux qui papillotent et regardent quoi, tu vois.
Donc après, je pense que j'ai un accompagnement quand je travaille de Nina Simone, Bachung, de poètes, de peintres aussi. Forcément, c'est ce qui nous nourrit au quotidien et voilà.
Et en fait, je sais aussi que depuis quelques temps, ça fait pas très très longtemps que tu exposes tes images, tu fais des expositions et tu as la chance d'aller dans les grands salons du Grand Palais ou tu passes par la filature de Mulhouse ou à Strasbourg. Mmh. Et alors, depuis combien de temps tu fais des expositions ?
Alors moi, je suis un photographe émergent, un vieux photographe émergent, puisque j'expose à peu près depuis 6 ans, quoi. Donc je monte mon travail personnel depuis 6 ans.
Parce qu'avant, tu n'avais pas le temps de faire des expos, c'était trop...
Alors j'avais moins de temps, et puis aujourd'hui, je pense que c'est devenu une nécessité, parce qu'il y a un moment donné où mon travail, mes recherches personnelles, ça devient une somme, ça devient cohérent, et ça devient concret. On commence à le montrer, et puis les gens disent, mais bon, voilà, ça serait intéressant de le montrer un peu plus haut, plus loin.
Et alors, est-ce que des fois, tu mires un peu quand les gens regardent tes photos? Est-ce que tu es un peu caché derrière un rideau et tu regardes ce que disent les gens? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Est-ce qu'ils sont émerveillés? Est-ce qu'ils tombent en arrêt devant tes photos? Comment tu ressens ça?
Alors, oui, bien sûr, parce que exposer, c'est aussi se confronter, bien sûr, à des spectateurs ou des lecteurs de vos images. Et j'aime bien rencontrer les gens, c'est l'occasion. Je veux pas rester dans mon coin.
Une rencontre, c'est magnifique. Voilà. Regarde, aujourd'hui, on se rencontre, on se papote, on se raconte des trucs, et je trouve ça très intéressant. Ouais.
Et puis, des fois, il y a des choses j'ai des retours de personnes qui moi, me touchent beaucoup, et c'est absolument génial.
Et ça, c'est extraordinaire. C'est le résultat de ton travail, ce que tu as fait.
Alors, c'est pas le but. Je fais pas ce travail pour ça.
Bien sûr.
Mais c'est génial de pouvoir rencontrer des gens qui vibrent de la même façon ou qui ressentent des choses. Et j'ai eu sur des salons, j'ai rencontré des gens qui étaient pétrifiés devant les images.
Wow.
Des images
pas effrayés.
Bon, alors un peu effrayé quand même, hein, tu vas comprendre, et qui me disaient, mais c'est magnifique, c'est très beau, mais je pourrais jamais mettre ça chez moi. Ça m'effraie.
Ah ouais, quoi, tu vois,
utilise vraiment ce terme. La personne était effrayée, et on en a parlé. Et pour moi, c'était le meilleur cadeau qu'on puisse me faire. Parce que...
Effrayé par les photos du musée zoologique où tu as photographié des insectes?
Alors, pas du tout. Parce que, quand on monte un crâne, un animal mort, ça peut être effrayant. Mais là, c'était en l'occurrence du paysage. Donc, je fais des paysages qui sont effrayants.
Pourtant, un paysage, ça ramène de la sérénité. C'est du calme.
Le familier inquiétant est présent en permanence.
Alors là, en fait, j'ai ton ouvrage devant les yeux. Tu as fait presque une bible, un recueil avec plein de
photos. Monographie,
oui. C'est magnifique ce que tu as. Et c'est vrai que là, je vois des photos du musée zoologique sous cellophane, tout ça. C'est waouh. Wow. Ouais. Mais alors, tu as une manière de photographier avec des fonds, des arrière-fonds. Là, c'est vraiment de la peinture, quoi, on dirait, tu vois. Et là, les photos que je vois sous cloche, où le temps s'effeuille derrière le vide. Comment tu fais ça? T'as un studio chez toi, alors?
Alors, ça, c'est chez moi. C'est un triptyque.
Et à la claquette?
À la claquette, oui.
Ouais.
Et j'essaye d'être le plus simple possible. Hein. C'est une nappe blanche, une vieille nappe. Il y a un fond blanc derrière. Un éclairage qui est absolument... Enfin, que j'essaye d'être le plus simple possible. Il n'y a pas d'artifice.
Ouais, la compo est belle, je veux dire, c'est joli. Les triptyques, là, c'est extraordinaire. Ce livre, il est très beau. Et puis, c'est vrai que tu as la nature. Là, on voit des endroits. C'est vrai que là, on voit que tu as coupé une brindille.
Voilà. J'ai oublié mon sécateur.
Et là, c'est juste à côté de chez toi, ça?
Oui.
C'est dans ton jardin secret?
Non, alors, c'est la Bruche qui coule à côté de chez moi. Hein,
c'est une rivière que je connais bien. Je pêche à la mouche ici.
Ah, super.
Je suis moucheur et je connais ces endroits. D'accord. Je connais bien la Bruche, ouais. Mais là, t'as l'impression que c'est l'Everest là que t'as photographié.
Alors ça, c'est assez étonnant parce que c'est des petits morceaux de métal qui proviennent d'une planche, d'une table de découpe plasma. Donc c'est des petites, des microcosmes, des petites montagnes. Ah, que je trouve intéressant que l'imaginaire puisse se projeter sur une vraie montagne à partir d'une pièce métallique qui fait 4 cm de haut.
Ouais, génial.
Et qui est un déchet en plus.
Parce que tu ramasses des déchets dans la rue et tu les mets dans ton petit musée.
En permanence.
En permanence ?
Oui.
Ça, c'est, tu reviens un petit peu au coquillage que tu as ramassé avec le bois flotté quand tu étais jeune.
Ouais. Moi, j'ai une phrase qui est de Yves Le Fur qui est une main qui se ferme sur un caillou et qui s'ouvre sur un trésor inestimable.
Oh, c'est beau, c'est magnifique.
Et je trouve que c'est ça aussi, c'est l'émerveillement quoi, en permanence. C'est l'enfant qui s'émerveille devant le 60 000e galet.
C'est génial.
Parce qu'il a vu un visage dedans ou quelque chose. Ça,
c'est un vrai poète, cet homme. C'est vraiment chouette. Écoute, Stéphane, notre émission se termine tout doucement. Je suis très heureux d'avoir partagé ce doux moment avec toi, à te connaître, à te découvrir, à la claquette. Bah, écoute, bonne continuation, la claquette. Et j'espère qu'un jour, je pourrai voir ton trésor de plus près.
Plaisir.
Je viendrai avec un micro et on enregistrera à ce moment-là. Merci d'être venu. C'était sympa. Ça t'a plu de parler un peu avec nous ?
Absolument.
Avec nos auditeurs.
Oui.
Merci, Stéphane.
Merci.
À très bientôt.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher petit.